Et voilà, Onde Noire, deuxième partie. Et nous avons le grand plaisir d'accueillir Joséphine Cardona. Joseph, bonsoir.
Bonsoir.
Et merci beaucoup de nous rejoindre. Et donc, nous allons parler d'Un aller simple pour Nomad Island, qui est votre dernier roman paru aux éditions du Seuil.
Oui.
Juste un petit bout d'itinéraire. Je crois que c'est le 8e roman.
Un peu plus. Dixième, je pense.
Dixième. Il y a aussi dixième, des recueils de nouvelles.
Oui.
Du théâtre.
Des nouvelles, du théâtre.
Et du cinéma.
Des scénarios de bande dessinée. Et puis un film aussi.
Milky Way. C'est parce que vous êtes suisse, il faut tout le temps parler de chocolat. Pardon, c'était nul. Désolé.
C'était un titre ironique, justement.
Bien sûr. Mais ma remarque l'était aussi, bien évidemment.
Pardon.
Donc, on va se concentrer sur Aller simple pour Nomad Island. Donc, je ne sais pas si je l'ai dit, c'est paru aux éditions du Seuil. Tout commence par un spam ou un courriel qui arrive comme ça dans la boîte mail d'une certaine Iris. Et ça va complètement changer sa vie. Et déjà là, on a une toute première égratignure, un petit égratignement, comme j'appelle, de notre société moderne. D'ailleurs, il va y en avoir plein d'autres tout au long du récit. C'est un des thèmes, de montrer les travers de notre société, ça se retrouve assez souvent dans ce récit.
Oui, l'idée c'est d'écrire d'une certaine manière une allégorie, sous couvert de romans noirs et puis de romans un peu d'anticipation aussi, une critique sur une certaine cadrerie sociale, on va dire, de personnes très aisées qui vivent finalement dans un monde parallèle et ne sont pas tellement en connexion avec le quotidien du quidam, de l'être commun, on va dire.
Donc, alors justement, on va... Pardon.
Oui, et donc voilà, cette femme... Je suis désolé, j'ai un larsen, j'ai un retour, donc je suis désolé si je parle un petit peu en décalage. Oui, cette femme vit déjà dans un monde clos, dans sa belle maison, dans un quartier qui est sécurisé, etc. Et donc, il y a cette intrusion dans son quotidien, dans le ronron de son quotidien par ce spam, alors qu'elle est en train de regarder des sites de vacances, parce qu'on est au mois d'août, c'est le moment un petit peu de partir en vacances, comme ça. Il y a une proposition qui lui arrive, une proposition de voyage. Et en plus... cette proposition de voyage s'adresse directement à elle, d'un homme. Et voilà, elle a envie d'y aller sur cette belle île et ça démarre comme ça en fait.
Voilà, et donc on découvre la famille. Alors je ne sais pas comment on dit, Jensen.
Oui, Jensen.
Suisse riche, pléonasme. Justement, voilà, des gens comme vous venez de dire en marge de la société. Donc, des gens qui sont riches et qui vivent un peu dans un monde clos. Et donc, c'est une famille à la fois banale, mais c'est une famille aussi extraordinaire. Alors, est-ce qu'on peut un peu égrener ? Donc, Iris sort d'un drame, il y a une onzaine de mois, à peu près.
Oui. Alors, il y a une chose intéressante que vous dites, une famille en marge. Parce que finalement, moi, j'ai toujours traité jusqu'à présent de personnages... qui sont dans la marge ou qui se retrouvent dans la marge, mais plutôt de personnes plutôt pauvres ou alors ce qu'on appelle les marginaux. Mmh. Et là, je me suis aperçu que finalement, que les gens très riches, d'une certaine manière, sont aussi dans une forme de marge. Et donc, j'avais envie de traiter ça. Alors oui, quatre personnages, donc la famille modèle, effectivement, la famille du dépliant touristique, donc le père qui travaille dans la finance, qui vient d'être nommé en plus à un poste important au conseil d'administration d'une... J'ai fait démarrer l'histoire ici à Genève, où je vis, de ces banques privées.
Ah, oula. Alors là, par contre, on a un petit problème. Il se trouve que la conversation a été coupée. Donc, voilà, je vais un petit peu le temps que Philippe rappelle Joséphine Cardona, qui l'a dit, hein, il est à Genève, alors peut-être que les communications sont très mauvaises avec la Suisse en ce moment. Voilà, donc il parlait, Joseph nous parlait de son personnage, le père, Jensen, qui part en vacances en ayant laissé, c'est une petite anecdote, sa Rolex à Genève, puisque c'est un homme qui a réussi. Et puis, donc, quand on va avoir retrouvé Joseph, il va peut-être nous parler des deux enfants, de Lou, de Stan, qui sont l'une très banale, Lou, une adolescente, et puis Stanislas, qui est un petit peu particulier. Voilà, donc j'espère qu'on va pouvoir retrouver Joseph dans très peu de temps. Voilà, Joseph, je suis désolée, décidément, quand même, là, c'est quand même pas loin, Genève, de Grasse.
Non, mais alors, là, il y a une sorte de tempête.
Ah, d'accord. Alors ouais, voilà, pour avancer un peu les choses, j'avoue que j'ai parlé donc j'ai parlé du père, et puis j'étais en train de présenter, je commençais à présenter les deux enfants. Lou, une adolescente classique, et Stan, un enfant un peu particulier.
Oui, Stan a une dizaine d'années, et puis c'est un enfant mal aimé de sa mère. C'est-à-dire, sa mère s'en occupe de manière très, très hygiéniste, on va dire. Elle fait ce qu'il faut faire, mais sans chaleur, sans affection. Et puis c'est un enfant qui est un peu voué à lui-même, parce qu'il passe de nounou en nounou, en éducateur de sport, au professeur, et puis il rentre à la maison, et puis finalement, son père est très souvent absent. Donc finalement, c'est un enfant un peu voué à lui-même et qui, en plus, est un enfant très mûr pour son âge. Il est en avance, il est même, d'après ses professeurs, surdoué. Et donc, c'est lui qui va immédiatement pressentir que ce village de vacances perdu au milieu de l'océan Indien n'est pas ce qu'il a l'air d'être. Effectivement, vient de là la première alerte, en fait.
Voilà.
Et lui, donc, sans révéler trop de l'histoire, c'est lui qui voit le premier soir quelque chose à travers la fenêtre du bungalow qui va le terroriser pratiquement.
Alors la famille est quand même bien accueillie, ils ont un coucher de soleil absolument merveilleux, on a l'impression d'être sur le paradis sur terre, et comme vous dites, tout de suite, insensiblement, et là on va passer à la fois dans une sorte de thriller, parce que là on ne peut absolument plus lâcher le livre, et puis dans un petit peu le côté fantastique, tout se détraque. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas tellement les gens qui vont donner les premiers indices qui semblent inhospitaliers. Non, c'est plutôt les choses. La maison, par exemple.
Oui. Oui, parce que, en fait, on s'aperçoit très vite que tous les objets qui sont dans cette maison, à part deux, trois choses qui ont été apportées, on va dire, sur cette île, sont faits avec des matériaux fabriqués sur place. Il n'y a rien qui vient de l'extérieur. Et puis, rapidement, on s'apercevra que finalement, cette île est autonome. Et voilà, il y a des signes comme ça. Et puis, il y a des petites choses. Le lavabo décide
de donner de l'eau ou pas.
Voilà. Et puis, en fait, cette maison, ce bungalow, d'une certaine manière, a une forme. Il existe d'une certaine manière, il respire. Il est effectivement c'est bien vu de sentir que ce sont les objets, les choses qui commencent à être une menace, parce que ce sont aussi les personnes qui vivent essentiellement à travers les choses. Ils sont
très matérialistes.
D'acheter tout ce qu'ils veulent, en fait. Et ces choses, tout d'un coup, d'une certaine manière, se retournent contre eux.
Et là, donc, en plus, cette maison, ces objets, les gens mystérieux qui vont venir, les gens qui les accueillent, les gens qui font des animations, qui sont totalement inquiétants, mais je ne veux pas en dévoiler plus, parce qu'il faut découvrir ce livre absolument, mais qui petit à petit vont faire monter une sensation d'angoisse, et chez le papa, et chez Stan, mais chez le lecteur aussi, ben, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est aussi un bel hommage à Stephen King.
Oui, bah alors l'enfant pourrait, je ne sais plus le prénom qu'il porte, Danny, je crois, dans Shining.
Dans Shining.
Il y avait un petit peu ça, oui. C'est l'enfant qui perçoit quelque chose de la part de son père qui est en train de dévier. En l'occurrence, là, il y a plutôt une alliance entre le père et le fils qui va se faire. Et j'ai eu énormément de plaisir. D'ailleurs, je suis en train d'écrire en ce moment un roman sur on va dire la préadolescence, la fin de l'enfance. J'ai eu énormément de plaisir parce qu'à un moment donné, justement, Stan, cet enfant, va se retrouver avec deux autres enfants qui comme lui, sont un peu
différents,
adaptés à l'île. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire tous ces chapitres sur l'enfance, sur la prise de conscience de choses que les adultes ne voient pas.
Sur l'adolescence aussi, parce que vous trouvez des mots très justes pour parler de la période post-pubertaire de Lou.
Oui, bah en plus c'est une très belle jeune fille qui qui finalement, voilà, c'est un petit peu j'ai l'impression de voir ça beaucoup dans les adolescents d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a une révolte éventuelle contre les parents, enfin une révolte assez douce, mais on n'est plus du tout dans une remise en question du matérialisme de la société. Au contraire, ils ont tous leur iPhone, ils ont tous leur fringues, ils ont tous leur coupe de cheveux. Il y a quelque chose qui va vers une forme même de langage, d'expression assez uniforme, et il n'y a pas justement de révolte saine par rapport à une remise en question du monde des parents. Et en fait, Lou est juste en conflit avec sa mère, parce que sa mère, bon, voilà, elle est, on va dire, dans la phase descendante de sa beauté. Elle est déjà passée chez le chirurgien pour se refaire faire la poitrine, un petit peu les lèvres, etc. Et puis, au contraire, elle est en train d'éclore. C'est une très jolie fille. Et puis, voilà, en fait, il y a deux choses qui l'intéressent. C'est être avec ses copines.
Et se faire un mec.
Et puis, découvrir la grande inquiétude et puis la grande obsession, c'est la sexualité. Mmh. Et là, elle se retrouve sur une île où tout le monde est magnifique. Tout le monde est très beau. Et elle va trouver des jeunes gens très beaux. Donc, voilà, et puis elle voudrait bien communiquer avec ses copines qui sont restées à Genève et leur dire, voilà, leur envoyer des photos et tout avec le téléphone portable. Mais bien entendu,
et toute communication va être coupée
sur l'île. Ça ne capte pas.
Voilà. Ben, c'est des fois un peu comme Grâce Genève. Mais bon. Et donc, quand on tombe dans la fantastique, on est en fait tout le temps dans la métaphore, la parabole. Et moi, une des idées fortes et qui m'a beaucoup intéressée, c'est justement l'idée qu'en fait, c'est la mère et la fille qui vont être happées par une espèce de matrice qui représente l'île. Et il y a une espèce de mise en abîme parce que matrice, ça fait penser aussi à mater, à maman, et Iris a eu un problème de maternité, et on va à la métaphore jusqu'à les enfants qui, quand ils veulent peut-être voir autre chose, vont aller jusque dans les entrailles de l'île. On est dans une sorte de mise en abîme de cette matrice.
Oui, parce que en fait, voilà, moi j'ai aussi voulu rester on est un petit peu dans l'anticipation, mais on est à la frontière. Et j'ai voulu laisser, personnellement, je peux donner certaines réponses, je pourrais, mais je les ai laissées en libre choix et en libre vision personnelle du lecteur. Mais d'autres choses, je les ai mises comme ça de manière instinctive, et peut-être j'ai pas encore complètement de réponse. Mais c'est vrai que j'ai voulu rester à la lisière du fantastique. Cela dit, l'île est une entité. Elle existe, et puis c'est une île, effectivement. Il y a quelque chose qui est lié à la dimension féminine. Et peut-être, j'ai voulu faire là quelque chose où j'ai l'impression qu'on vit une époque où on met en valeur peut-être des fausses valeurs liées au féminin, qui sont, comme on a pu mettre au siècle précédent, peut-être des fausses valeurs masculines qui nous ont amenés au fascisme, enfin la virilité, la force, tout ça. Et aujourd'hui, on est vraiment dans des mondes de la prudence, on s'assure sur tout, on a peur de tout, on a peur de perdre des privilèges, on a peur de... Et donc, il y a quelque chose qui est, à mon avis, sur une fausse valeur féminine qui est avancée, qui est mise en avant parce qu'elle permet la consommation, en fait. Cette valeur-là permet de... La sécurité permet de consommer. Et en fait, voilà, il y a quelque chose qui phagocyte très vite les habitants de cette île. Et puis finalement, il y a un sursaut de Stan et puis de son père, Paul, un sursaut peut-être masculin, on va dire, de révolte, de tenter de faire prendre conscience à sa femme, parce que lui va complètement se remettre en question sur sa vie, sur ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, sur leur façon de fonctionner. Et c'est ça qui fait qu'il n'arrive pas à être complètement happé par l'entité de l'île, justement, et qui réussit pendant un moment, en tout cas, à être en révolte. Mais voilà, ça va être très difficile pour lui, en tant qu'adulte, un peu plus peut-être pour les enfants qui sont conscients de ça, d'aller en porte-à-faux sur ça.
Oui, donc, et surtout de pas adhérer aussi au couple qu'il forme avec Iris, puisque à un moment donné, il y a aussi une très belle et très tragique où on peut mettre les adjectifs à l'inverse, histoire de couple entre Iris et son mari. Et puis, oui. C'est marrant, vous avez évoqué le mot fascisme dans cette réponse. Et moi, ma prochaine question, c'était que, autre idée forte du livre, cette hyper-consommation avec l'idée qu'on nous une feinte là-dessus, cette idée de bonheur universel que tant de dictatures ont utilisé et que vous voulez à tout prix pour leur peuple, en fait.
Oui, ben là, c'est en fait, c'est l'idée de cette... Bon, déjà, c'est une dictature au soleil, et puis c'est un roman noir au soleil. Donc j'ai voulu aussi créer une atmosphère anxiogène, mais alors qu'il fait toujours très beau, où le paysage est magnifique, où voilà, c'est la pub Hollywood chewing gum, quoi. Mmh. Tout le monde a les dents très blanches et pète la santé. Déjà ça, et puis voilà, c'est une forme de totalitarisme par la bande, en fait, quelque chose de très subreptice. Alors peut-être que j'exagère, peut-être que je vois les choses de manière peut-être un peu trop noire pour le coup, mais c'est vrai que j'ai l'impression que gentiment, on est en train de manière globale, en Occident en tout cas, de se faire happer par, au nom de cette consommation, au nom d'une croissance perpétuelle, etc., on est en train de renoncer à plein de choses qu'on a mis plusieurs siècles à obtenir. Je pense notamment au dimanche du travail, là, pour pas le nommer. Voilà. Mais de manière très, très subreptice, très sournoise, en fait. Et là, on a un totalitarisme qui s'affiche, mais qui, à un moment donné, d'ailleurs, disent, mais vous voulez quoi? Il y a 90% du monde qui voudrait être à votre place. Vous avez tout. Et puis vous vous plaignez. Donc, et parce que peut-être l'essentiel, c'est de pouvoir se faire une opinion sur les choses et puis de pouvoir être libre dans sa façon de penser. Mais oui, au fond, il y a une forme d'adhérence presque spontanée vers. Et en plus, il n'y a pas d'ennemi. C'est pour ça que j'ai voulu garder cette idée de l'entité abstraite de l'île, parce qu'il n'y a pas un guide.
Il n'y a pas. C'est the big brother.
C'est quelque chose qui est partout et nulle part, et qui est là.
Un petit peu. Ouais, Big Brother, un petit peu.
Voilà. Quelque chose qui s'est insinué au sein même de la famille, et puis deux, dans l'individu qui lui-même va aller au devant. C'est comme un peu la censure aujourd'hui. On n'a plus vraiment une censure. C'est plutôt une censure économique. C'est une censure que à tous les échelons on veut plaire à l'échelon supérieur. Donc on va déjà réduire certaines choses pour que ça plaise. Et voilà qu'à la fin on a des choses complètement édulcorées dans beaucoup de domaines. Et c'est un petit peu ça que j'ai voulu dire à travers une histoire concrète qui existe, qui est là avec du suspense, de la tension.
Voilà, etc. Et totalement métaphorique.
Et en même temps, c'est pour moi le rôle du roman noir, c'est d'ouvrir à ces réflexions-là.
Et de nous donner des interrogations. Alors, il nous reste une minute. J'aimerais qu'on parle du style, parce que ce qui m'a aussi beaucoup intéressé, c'est la façon, la narration, ces chapitres très courts, avec des plans larges, des éclairages particuliers. On dirait presque que vous avez commencé par un scénario, des plans extérieurs nuit, intérieurs.
Oui, non, mais c'est vrai que, bon, cela dit, j'ai été contacté, là, on est un peu en pourparlers pour éventuellement une session de droit. Pour le cinéma. Non, mais c'est vrai que j'avais envie de faire quelque chose qui soit... voilà, ou peut-être bon, l'écriture plus au service de l'intrigue, on va dire.
Oui, du rythme.
Et puis quelque chose, j'avais envie de quelque chose de soutenu, avec des moments de réflexion, etc. Mais effectivement, il y a quelque chose sans doute d'assez cinématographique là. Là-dedans, oui.
Bien, Joséphine Cardona, je vous remercie beaucoup et je remercie les orages et la météo qui nous ont permis de continuer quand même,
qui ne nous
ont pas censurés sur notre conversation. Donc je rappelle le titre, Aller simple pour Nomad Island, de Joséphine Cardona, que nous remercions beaucoup et à qui nous souhaitons une bonne fin d'année et de très bonnes fêtes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aux éditions du Seuil, un très bon cadeau à offrir et à s'offrir. Merci beaucoup Joseph, à bientôt.
Merci, au revoir. Merci beaucoup.
Au revoir. Et voilà, c'est la fin de notre émission. Donc, on va peut-être dire le titre Jeudi Noir.
Jeudi Noir de Michael Mention dans la collection Ombre Noire de Flammarion.
Et voilà, et Aller simple pour Nomad Island de Joséphine Cardona aux éditions du Seuil, comme l'était...
Et le Dan Fanté.
Le Dan Fanté.
Dont nous a parlé Jean-Marc.
Voilà, donc Jacques, et ben, chacun dans son coin avec un bon bouquin. Et puis maintenant, à l'année prochaine.
Au revoir et à bientôt et bon boudin à tous.
Au revoir.